Bonjour Benoît Cohen.
Bonjour.
Racontez-nous tout d'abord comment vous avez appris que votre mère allait héberger chez elle, dans son hôtel particulier, un jeune réfugié afghan.
Écoutez, en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Un jour, moi, j'habite à New York depuis 4 ans et chaque semaine, j'appelle ma mère comme ça pour avoir des nouvelles un peu de la famille. Et puis, ce soir-là, je l'appelle et je lui dis comment ça va. Elle me dit, bah, écoute, j'attends Mohamed. Et je lui dis, mais c'est qui Mohamed ? Elle me dit, bah, le réfugié afghan qui va habiter à la maison. Et là, je suis tombé de ma chaise parce qu'elle ne m'en avait jamais parlé. Et je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce qu'elle avait peur que, et moi et mes frères, on la dissuade ou... qu'elle avait besoin que ce soit vraiment sa décision. Mais enfin, voilà, ça a été comme ça. Mohamed est rentré dans notre vie du jour au lendemain.
Vous l'avez dit, Benoît Cohen, vous vivez aux États-Unis depuis plusieurs années. Vous avez des sympathies, on va dire, démocrates. Vous avez été atterré par la victoire du républicain Donald Trump, par son discours xénophobe. C'est un cauchemar que vous vivez quand il est élu. Et pourtant, vous êtes surpris par votre propre réaction à l'annonce de votre maman d'accueillir ce réfugié.
Oui, je suis surpris, mais pas tellement parce que l'idée d'accueillir un réfugié me pose problème. Au contraire, je trouve ça formidable, mais je suis surpris qu'elle, à 70 ans passés, seule dans sa maison, ait le courage de faire ça. Et c'est vrai que ça arrive à peu près au moment où ces élections ont lieu. Et moi, ça me pose plein de questions et je me dis, peut-être c'est comme ça que je vais pouvoir, à mon petit niveau d'artiste, résister à ce qui est en train de se passer aux États-Unis et puis dans le monde de manière plus générale, à cette espèce de peur généralisée de l'étranger, du migrant, du réfugié. Et j'ai envie du coup de raconter cette histoire à ma manière pour juste montrer que peut-être c'est à un petit niveau qu'on peut changer les choses plutôt que politiquement au niveau des États.
Mohamed, quand il arrive chez votre mère, Benoît Cohen, il a une vingtaine d'années. C'est un ancien traducteur pour l'armée française en Afghanistan. On va en reparler, hein. Il a vu la guerre de très près, il a vécu dans la rue. Et il n'est pas prêt à recevoir toute cette générosité, un bon petit déjeuner, un poste dans le grand magasin fondé par vos parents.
Ben non, en fait, c'est ça qui est étonnant et que ma mère met un peu de temps à comprendre. C'est qu'à partir du moment où il arrive chez elle, elle se dit, bon ben voilà, c'est fait, c'est bon, il a un toit, en plus elle lui donne un travail, donc elle pense que le plus dur est fait. Et en fait, elle se rend compte qu'il est complètement sous le choc. Pendant 3 jours, il sort pas de son lit, elle appelle un médecin. Le médecin trouve rien, il dit juste, écoutez, il est en état de choc, il faut juste lui laisser du temps pour digérer tout ce qui lui arrive. Il passe de la rue à cet hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois extraordinaire, mais assez violent aussi.
Mohamed, ma mère et moi, votre livre, Benoît Cohen, livre aussi un coin du voile sur la situation des interprètes que l'armée française laisse livrer à eux-mêmes, en Afghanistan notamment, menacés de mort ensuite dans leur pays d'origine. Vous connaissiez cette situation ? Vous l'avez découverte avec Mohamed ?
Je la connaissais mal, et surtout je ne pensais pas que c'était une situation qui avait une telle ampleur, c'est-à-dire que quand Mohamed m'a raconté que lui, après avoir travaillé pendant 1 an et demi pour l'armée française au front quand même, donc il faut l'imaginer avec son gilet pare-balles, avec des gens en train de se faire tuer autour de lui, et lui se demandant chaque jour si ce n'est pas son tour, quand l'armée française décide de quitter le pays au moment de l'élection de Hollande, on lui dit, il faut quitter vous aussi le pays avec nous parce que les talibans vont se venger sur vous, et donc on va vous donner un visa, il faut partir au plus vite. Et à partir de ce moment-là, son cauchemar commence, puisque pendant 7 mois, il va quasiment quotidiennement à l'ambassade, et pendant 7 mois, on repousse la date de cette décision de lui donner un visa. Et un jour, il y a des gens qui viennent frapper à sa porte. Il entend un accent pachtoune, il attend personne, il sait qu'ils sont là pour le tuer. Il sort par la fenêtre et il s'échappe. Il arrive à prendre un vol pour le Sri Lanka où il n'avait pas du tout prévu d'aller. Et il va ensuite commencer cette errance qui l'amènera finalement en France grâce à la bienveillance d'un ambassadeur à Colombo, au Sri Lanka. Mais la France l'a vraiment trahi et je me suis rendu compte en faisant des recherches après qu'il y avait plus de 300 traducteurs au service de l'armée française et que seulement 100 d'entre eux ont eu des visas et beaucoup sont morts, tués par les talibans et d'autres sont encore là-bas dans une situation extrêmement précaire. C'est vrai que j'ai toujours pas compris pourquoi on avait mis ces gens dans cette situation.
La forme de votre récit, Benoît Cohen, le livre « Mohamed, ma mère et moi » n'est pas du tout moralisateur, il est au contraire plein d'humour, tout particulièrement quand vous vous retrouvez tous les deux à boire du vin, manger de la charcuterie. Mohamed, issu d'une famille musulmane qui est devenue athée, et puis vous, alors là je vous cite, considéré comme juif par les non-juifs, mais en tout cas pas pratiquant.
Oui, donc c'est ça aussi qui était intéressant dans notre rencontre, c'est que lui vient d'une famille religieuse. Même encore aujourd'hui, quand il parle à ses parents par Skype, il leur dit pas qu'il fait pas la prière et le ramadan. Et moi qui viens d'une famille juive, pour le coup non religieuse, mais on s'est retrouvés dans cet athéisme et en même temps à pouvoir parler de la religion très librement. C'est vrai que ce Mohamed qui rencontre ce Cohen, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. C'est pour ça aussi que mon livre s'appelle Mohamed, ma mère et moi, et que je le signe de mon nom, Benoît Cohen, parce que pour moi, c'est aussi une manière de sortir de cette dichotomie, les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre. J'essaie avec ce livre-là de montrer aussi qu'on peut passer outre ça, quoi.
Et où en est Mohamed maintenant, Benoît Cohen? Il avait arrêté l'école à 15 ans, et là, il a été coaché par une association, et il doit être en train de terminer sa première année à Sciences Po, à Paris, la prestigieuse école.
Ben oui, ça, c'est le côté conte de fées de l'histoire. Ça commence à imaginer écrire ce livre. Il travaille encore dans le grand magasin de mes parents, etc. Et puis, tout d'un coup, il dit « je veux faire des études ». On lui dit « mais ok, très bien, mais quoi ?» Il dit « je veux faire Sciences Po ». Ce qui, à ce moment-là, est complètement irréaliste. Comme vous l'avez dit, il a arrêté l'école très tôt. Et il veut rejoindre cette école où 85% des élèves ont la mention très bien au bac. Bon, on essaie de le dissuader juste pour qu'il n'ait pas un sentiment d'échec. Et en fait, il continue, il rencontre une association qui s'appelle Wintergrad qui va l'aider à préparer cet examen. Et contre toute attente, il va être reçu à Sciences Po. Et aujourd'hui, il finit sa première année sur le campus du Havre, qui est un campus en anglais. C'est totalement hallucinant. Mais bon, c'est vrai que ce Mohamed, depuis le début, ma mère l'a senti tout de suite et m'en a parlé très vite. Il a une espèce de force comme ça, une intelligence qui fait que rien n'est impossible pour lui, quoi.
Et votre mère, Benoît Cohen, Marie-France, elle va accueillir un nouveau réfugié?
Ben ça y est, il y a déjà quelqu'un qui habite chez elle. Mohamed est un peu jaloux, mais comme il fait partie de la famille, je lui ai expliqué que la prochaine fois qu'il viendra, il aura de toute façon un lit chez ma mère. Et l'idée de ce livre aussi, c'est que d'autres gens aient envie de suivre l'exemple de ma mère, de passer outre la peur, parce qu'on a tous au début, et vous parlez de ma réaction, quand elle me dit « j'attends Mohamed », ma première réaction, c'est aussi la peur de me dire « ma mère est toute seule, elle est folle, d'où vient ce type ?» Mais si on passe outre la peur, on aboutit à des histoires comme ça assez exceptionnelles.
Merci Benoît Cohen.
Merci à vous.